Mal dormi? Réconciliez-vous enfin avec votre literie. Grâce au confort Tempur, votre matelas s'adapte à votre corps pour un sommeil de rêve. Pour son anniversaire, Tempur vous offre du confort en plus. Profitez-en. Jusqu'au 25 mai, agrandissez votre literie à prix unique. Voir conditions et liste des revendeurs participants sur tempur.com.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le 22 mai prochain, le monde entier va célébrer le bicentenaire de la naissance de Richard Wagner, le compositeur allemand qui devait révolutionner l'opéra. Franck Ferrand s'est bien entouré pour évoquer ce personnage. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Wagner, c'est la tétralogie, les Valkyries, Tristan et Isolde, Lohengrin et Parsifal. Wagner, c'est le grand homme de Bayreuth, l'ami du roi Louis II, le grand romantique amoureux des femmes, surtout celles des autres, vous allez voir, et amoureux sur eux aussi du grand passé germanique qu'il a ressuscité pour le meilleur et parfois pour le pire. Wagner, c'est surtout et d'abord un génie, un poète total qui a donné un souffle tout à fait nouveau à l'opéra de la deuxième moitié du 19e siècle. C'est ce génie que j'aimerais tenter de cerner aujourd'hui en compagnie de notre ami Thierry Geffrotin de la rédaction d'Europe 1 et de celui qui depuis des années fait si bien connaître et aimer l'opéra aux Français, monsieur Alain Duhaut en personne, qui me fait l'amitié d'être avec nous. Ai-je besoin de vous en dire davantage ?
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Le bicentenaire qui s'annonce est celui d'un des esprits les plus fertiles et les plus originaux des temps modernes. Celui d'un artiste total, à l'univers foisonnant, autant poète que musicien, autant metteur en scène que poète, pour ne rien dire de l'entrepreneur et du propagandiste, vous allez voir tout ça. Marcel Brion disait de Wagner qu'il était amoureux de l'amour. Le fait est que la passion amoureuse aura occupé une place de choix, aussi bien dans son œuvre que dans sa vie, et que le chant d'amour à mort d'Iseux, le fameux Isoldes Liebestod dont nous allons parler tout à l'heure, est un sommet inégalé du romantisme. Pour autant, Wagner n'est pas un romantique, ni un symboliste, ni un réaliste d'ailleurs. Wagner est wagnérien. Le terme existe depuis 1861 comme adjectif, depuis 1873 comme substantif, et sous la plume d'Alphonse Daudet, encore bien. Or, je vous rappelle que ce créateur prolifique, aussi puissant dans son inspiration qu'un Victor Hugo à la même époque, je vous rappelle que ce maître compositeur naît donc en 1813 à Leipzig, n'est mort à Venise qu'en 1883, ce qui veut dire qu'on était déjà wagnérien du vivant même de Wagner. En France, depuis la dernière guerre, l'image de Richard Wagner est parfois, souvent même, assimilée au Troisième Reich, les nazis, 50 ans après sa mort, ayant tenté de le récupérer et de faire leur miel de son univers culturel pan-germaniste. C'est oublié tout de même que les wagnériens les plus fervents, songez au transport et à l'exaltation de Madame Verdurin par exemple, c'est oublié que les vrais fanatiques de cette œuvre fleuve ont longtemps recruté à Paris. Il y a 100 ans, au printemps 1913, le centenaire de la naissance de Richard Wagner a été célébré avec faste, et pas seulement à Bayreuth. À Paris, à l'époque, on inaugure le Théâtre des Champs-Élysées qui se veut un temple du wagnérisme. Les cercles artistiques, intellectuels, mondains de cette veille de Première Guerre mondiale, Mallarmé en tête, vivent en plein wagnérisme et la première de Parsifal à l'Opéra de Paris le 4 janvier 1914 aura été un événement considérable. Du reste, Wagner n'est sans doute pas étranger à la germanophilie rampante dont on accusera certains milieux élégants de Paris au premier temps de la Grande Guerre. Pourtant, et c'est le moins que l'on puisse dire, on n'a pas toujours adoré Wagner à Paris. Dans les années 1840 et 1850, c'est à Paris que Richard Wagner avait tenté de se faire un nom, de faire admettre ses œuvres, de faire aimer sa musique. Rienzi s'était d'abord vu refuser à l'opéra, puis le vaisseau fantôme avait été admis du bout des lèvres, mais seulement pour le livret, c'est-à-dire que là, Wagner avait été considéré simplement comme auteur. La partition avait été confiée à un certain Ditsch qui était maître de chapelle à Saint-Eustache. Revenu à Paris en 1850, 1949. On est là après l'échec de tout le mouvement révolutionnaire de 48, vous savez, notamment après l'échec de la révolution de 48 à Dresde. Wagner a vu son Lohengrin faire les frais de la grande épidémie de choléra qui, à l'époque, décimait la capitale française. Et l'année suivante, Meyerbeer, le patron de l'opéra, va refuser Wieland le Forgeron. Et pourtant, Wagner avait fait de gros efforts dans cette œuvre-là pour la rendre accessible à un très large public. Et tandis qu'il travaillait à l'Anneau du Nibelung, il avait fallu l'intervention de la femme de l'ambassadeur d'Autriche, la célèbre Pauline de Metternich, très amie de l'impératrice Eugénie, pour que Richard retienne l'attention de la nouvelle cour des Tuileries. Il n'empêche, le ministre des Beaux-Arts, le comte Walewski, se fait tirer l'oreille pour faire inscrire Tannhäuser au répertoire de l'opéra. Il va falloir que Napoléon III s'en occupe en personne. Or, dès la première, une cabale menée par des membres du Jockey Club et par des amis de Meyerbeer va se répandre en horreur dans les couloirs. « Comme ce serait mauvais si c'était de la musique », lance Aubert en personne. Et Mérimée surenchérit par un jeu de mots douteux « Je me tanne aux airs », disait-il à l'envi. Au deuxième acte, le charivari est tel dans la salle que la princesse de Metternich, de colère, va en casser son éventail, dit-on. 3 jours plus tard, pour mettre fin au scandale, l'empereur lui-même ordonnera qu'on retire Tannhäuser de l'affiche. Jamais Richard Wagner, qui fera encore des pieds et des mains en vain pour imposer à Paris Tristan et Isolde, jamais Richard Wagner, qui composera les maîtres chanteurs dans un petit hôtel du Quai Voltaire, jamais Wagner ne pardonnera vraiment à la France l'échec de son Tannhäuser.
C'est l'ouverture de Tannhäuser. Aujourd'hui, au cœur de l'histoire, on parle de Richard Wagner avec vos invités, Franck. Alain Duhaut, écrivain, musicologue, animateur de télévision et de radio, directeur artistique de Viva l'Opéra dans les cinémas UGC, auteur notamment du Dictionnaire amoureux de l'Opéra aux éditions Plomb, et puis Thierry Geffrotin, journaliste au service Culture d'Europe 1, auteur de Les 100 mots de la musique classique, que sais-je.
Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être venus nous parler de Wagner. Alors Alain Duhaut, vous disiez pendant qu'on entendait l'ouverture de Tannhäuser que le vaisseau fantôme était une belle histoire et qu'on va bientôt reprendre le premier vaisseau fantôme, hein, celui
c'est-à-dire
de Ditch.
Le seul qui porte vraiment le nom du vaisseau fantôme, puisque l'Opéra de Paris a acheté le livret et donc le titre, et c'est ce qui a empêché Wagner, quand il a enfin pu faire admettre sa musique, d'intituler son opéra le vaisseau fantôme, c'est devenu Der Fliegende Holländer, c'est-à-dire le Hollandais volant, le thème même de cette histoire fantastique qui sert de substrat à l'opéra.
Vous lui consacrez un très bel article d'ailleurs dans le Dictionnaire amoureux de l'opéra, qui est une véritable bible, hein, à tous les sens du terme.
Même l'épaisseur de l'épaisseur,
c'est ça. Et qui sort évidemment chez Plomb, dans la collection de notre ami Jean-Claude Simoen. Alors, Alain Duhaut, ce personnage de Wagner est aujourd'hui très fêté. Hein, ce deuxième centenaire est marqué par toutes sortes de grands événements, presque davantage que le bicentenaire de Verdi qui tombe la même année. C'est un paradoxe.
C'est un paradoxe, mais c'est pas un paradoxe qui est étonnant, parce que Verdi est toujours présent. En fait, on célèbre Verdi tout le temps. On l'a célébré depuis 2001, quand on a marqué le centenaire de sa mort, et depuis, on affiche Verdi partout. Tandis qu'il y a quand même une prévention contre Wagner, voilà. Et on utilise le bicentenaire pour essayer justement de creuser, comme nous le faisons ici aujourd'hui chez vous à Europe 1, cette personnalité qui a été contestée, à la fois haïe et encensée, et en même temps qui demeure assez difficile à pénétrer.
Je tenais à faire l'ouverture, disons, employons un terme d'opéra, l'ouverture de cette émission sur la passion d'un certain nombre de milieux intellectuels français pour Wagner dans les années 1890-1900. Ça a été vraiment un phénomène de société, Thierry Geffrotin, on l'a oublié.
Ah oui, on faisait le voyage à Bayreuth pour aller à la source. Et en France, il y avait des courants, et des compositeurs qui se réclamaient de Wagner et d'autres qui ne voulaient pas entendre parler. Quand on regarde l'innovation l'inauguration du festival, enfin du Festspielhaus, son temple. Il y a beaucoup de Français qui sont présents. Il y a des noms. Hein. Il y a Bruckner, il y a Liszt. Voilà.
Il y a Mahler, il y a Grieg, il y a Nietzsche, il y a Tolstoï. Voilà.
Et il y a un parterre de Français parce que oui, il y a une espèce de
500.
Il y a une querelle, de même qu'il y avait eu une querelle entre les Italiens et les Français au 18e, là, une querelle pro et anti-Wagnerien, c'est chaud.
Mais Thierry de Fontaine, si je me permets, parce que vous parlez du voyage à Bayreuth, il y a quand même effectivement à cette époque-là un livre qui paraît tout à fait extraordinaire d'Albert Lavignac qui s'appelle Le voyage à Bayreuth et qui commence par cette phrase sublime. On peut aller de différentes manières à Bayreuth, en train, en voiture, à pied ou à cheval, mais le vrai pèlerin devrait y aller à genoux. Ça donne vraiment l'atmosphère.
Oui, il y a quelque chose du pèlerinage, voilà. Hein, tout simplement.
C'est pas par hasard si le lieu où se trouve le Festspielhaus, qui s'appelait auparavant la colline verte, s'appelle maintenant la colline sacrée.
Eh oui. Alors peut-être est-ce dû au caractère extrêmement avant-gardiste de la musique de Wagner pour son époque, mais on peut dire que c'est un compositeur de la maturité, en quelque sorte. On n'a pas d'œuvre de jeunesse purement géniale de Wagner.
Non, la première œuvre vraiment marquante, c'est Rienzi qu'il compose à 29 ans et ensuite donc le vaisseau fantôme, comme on dit maintenant, qui date de la même époque. Parce que c'est pas du tout un enfant prodige, c'est pas Mozart. Mais vous savez, c'est la même chose pour Verdi, car la première œuvre vraiment marquante de Verdi, elle date du même âge, 29 ans, c'est Nabucco.
Alors ce qui est intéressant chez Wagner, c'est qu'il est lui-même l'auteur de ses livrets, c'est même plus que ça, c'est qu'en fait il compose en même temps qu'il écrit. Hein.
Pas toujours, mais il y a surtout une lettre tout à fait étonnante où il dit « je me sens plus poète que compositeur ». Alors là on peut douter un peu, mais c'est vrai que pour lui c'est tout à fait important et c'est tout à fait exceptionnel. Pratiquement aucun autre compositeur n'écrivent leur livret, mais il avait au fond cette volonté qui était aussi cette manière de s'impliquer dans l'histoire, la mythologie, la philosophie qui faisait qu'il voulait raconter véritablement quelque chose, porté ensuite par la musique.
Alors, aux yeux des Français et notamment de nos auditeurs aujourd'hui, quand on parle de Wagner, on imagine tout ce panthéon de dieux germaniques. Évidemment, il y a cette atmosphère très spécifique. Hein. Il fait ressurgir des profondeurs de la psyché allemande toutes sortes de personnages, de mythes qui avaient été plus ou moins oubliés. Ce qu'il faut peut-être commencer par dire, c'est que Wagner n'est pas du tout à l'origine de ça. D'ailleurs, nous avons, il y a quelque temps, fait une émission sur les frères Grimm, et nous avons vu à quel point toute cette mythologie allemande, en quelque sorte, avait déjà retrouvé tout son éclat à la fin du XVIIIe siècle. Wagner ne fait dans tout cela que reprendre des thèmes qui sont déjà à la mode de son temps, il faut le dire, ça.
Oui, bien sûr, mais parce que nul créateur ne crée absolument ex nihilo. Il s'inscrit dans un mouvement, et Wagner, comme les autres, dans ce mouvement de reviviscence des mythologies germaniques, mais aussi les mythologies du Nord, avec, pour Wagner, l'apport d'autres types de mythologies qui étaient moins à la mode à l'époque en Allemagne, qui sont les mythologies indiennes. Il a été très fasciné par la lecture de la Bhagavad Gita et ça lui a donné envie justement d'aller creuser dans ces mythologies indiennes. Il a fait une espèce de mélange parce que ce qui compte au fond chez Wagner, je parle là du point de vue de la musique, c'est la transformation du concept de temps en musique. Et tout cela, ça ne vient pas des mythologies, ça vient justement du temps hindou, du temps des ragas.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Yeah.
Holder Rabenstern, la romance à l'étoile, extraordinaire voix d'Andrea Schmidt sur ce qui est peut-être la plus belle mélodie de Wagner.
C'est sans doute la plus belle mélodie intrinsèquement et ce qui vient corriger les gens qui disent méchamment qu'il n'y a pas de mélodie chez Wagner. Mais surtout, c'est une mélodie qui nous montre, encore une fois, comme on parlait du substrat de ses livrets qui ne viennent pas de rien, bien que la musique ne vient pas de rien. Il avait une passion pour Bellini, il a écrit à quel point pour lui Norma était l'opéra des opéras. Et là, on entend vraiment le style de la mélodie bellinienne avec ce grand phrasé très flexible et puis un accompagnement pizzicati, harpe, qui correspond parfaitement à ce qu'on appelait la grande guitare qui accompagnait les mélodies belliniennes.
Ce qui fait la grâce d'une belle interprétation wagnérienne, c'est précisément la possibilité d'entendre toutes ces petites ces pizzicati, etc., qui parfois disparaissent un peu dans le, flux musical.
C'est ce qui fait un bon chef d'orchestre par rapport à un Panzer chef d'orchestre. Il y en a aussi.
Il y en a aussi, surtout dans Wagner. Et il y en a eu, en tout cas. Il y en a peut-être un peu moins maintenant. Alors, Tannhäuser, là, on est vraiment dans l'efflorescence du génie wagnérien. Alors, on est en 1845.
45. Oui. Mais il y a surtout une chose qui est importante. Vous disiez tout à fait, justement, les difficultés que Wagner a eues de faire jouer Tannhäuser à Paris. Mais il y a une chose dont on peut être fier en tant que Français, c'est qu'il y a un poète et même deux poètes qui se sont levés, Baudelaire évidemment, mais aussi Théophile Gautier, pour souligner à quel point Tannhäuser était un ouvrage formidable. Et le problème de Tannhäuser à Paris, il était multiple. Bien sûr, il y avait la personnalité de Wagner, mais il y a eu cette fameuse histoire du ballet. Vous savez qu'à l'Opéra de Paris, du fait du Jockey Club et de ces messieurs qui entretenaient les jeunes
demoiselles, les danseuses,
voilà, il fallait qu'il y ait un ballet. Mais il fallait que le ballet soit au deuxième acte, car les membres du Jockey Club n'arrivait pas au début, il dînait. Or, Wagner a dit, pas question, je veux bien baler, mais ça sera en ouverture, c'est la bacchanale, donc. Et évidemment, ça a contribué à faire le scandale.
Mais alors, il a eu la maladresse de se mettre, le Jockey Club, qui était le cercle mondain le plus lancé à Paris, contre lui. Il en a fait des ennemis à vie, en fait.
Tout à fait, mais il n'était pas non plus extrêmement diplomate, notre ami Wagner. C'était pas, comme il considérait qu'il était un génie et qu'on devait s'incliner devant lui, il ne comprenait pas qu'on ne puisse pas accéder à ses désirs.
Mais on parlait d'errance à travers la thématique des opéras tout à l'heure, mais il y a une forme d'errance wagnérienne aussi. Il passe son temps, lui, à courir l'Europe. Il passe de capitale.
Alors, il le fait parfois parce qu'il le souhaite. Il le fait aussi parce qu'il est contraint et forcé. Le début de sa carrière, il est dans son univers germanique. Quand il part à Riga, ça nous surprend pour nous parce qu'aujourd'hui, on dit « Ah bon, il y avait de la musique à Riga ?» Mais là, c'est des choix. En revanche, après 1848, où il a des fréquentations qui ne plaisent pas, il est un peu révolutionnaire sur les bords. Il est obligé de s'exiler. Donc, il a beaucoup. Je pense qu'il est traversé par de nombreux courants et en effet au moment où Alain Duhaut parle de Bakounine, il doit être assez révolutionnaire, mais ça ne le tient pas toute sa vie.
Mais je pense d'ailleurs qu'il a une conception révolutionnaire qui n'est pas celle de Bakounine, même s'il est lié à Bakounine, c'est-à-dire qu'il est loin d'être un adepte du collectivisme, il est plutôt adepte du culte de sa personnalité, mais il est pour tout ce qui bouge et tout ce qui boue.
Voilà.
Et en fait,
tout ce qui bouillonne.
Voilà, tout ce qui bouillonne. Et la révolution, c'est ça qui l'intéresse. C'est au fond ce bouillonnement parce que c'est ce qu'il veut faire passer à travers la musique. Mais je crois qu'il n'a aucune pensée politique réelle. Encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, ce qui l'intéresse dans le monde, c'est lui.
Oui, c'est lui et c'est ce qui
c'est très bien dit.
C'est ce qui peut nourrir ses passions, à commencer bien entendu par les femmes, car alors vraiment c'est un grand amoureux.
C'est un grand amoureux et parfois même des femmes de ses amis.
Surtout des femmes de ses amis.
On pourrait peut-être dire un mot de sa première femme, Mina.
Celle qu'il n'a pas volée à ses amis. La première, c'est Mina Planer, donc une actrice qu'il rencontre dans sa jeunesse et avec laquelle au fond il va avoir une vie un peu conjugale et c'est pour ça que ça ne marchera pas parce que Mina demande de la conjugalité et lui il est vraiment quelqu'un qui est beaucoup plus explosif et il a besoin de sortir au fond du carcan de la conjugalité et c'est pourquoi leur couple va être toujours assez agité parce qu'il semble que Mina, d'après ce qu'on sait, Mina Planer avait un vrai caractère et qu'il y avait des scènes de ménage qui étaient un peu du type des scènes de ménage qu'on retrouvera avec Richard Strauss et sa femme.
Oui, c'est un peu le même genre de couple, en fait.
Voilà, c'est des couples un peu explosifs. Mais la désagrégation du couple arrivera très vite et évidemment, elle sera accélérée au moment de la rencontre du couple Wezen, donc.
Oui, c'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure qu'il avait tendance à aller chercher les
voilà.
femmes.
C'est comme le coucou, oui, il va dans le nid du voisin.
Il a tendance de temps en temps à aller...
C'est-à-dire qu'au fond, si vous voulez, c'est toujours la même chose. Wagner considère que tout lui est dû, et donc s'il rencontre une femme qui lui plaît, il ne se préoccupe pas du fait qu'elle soit la femme d'un autre.
Il y a eu la belle anglaise, Jessie.
Hein, oui, alors, mais ça c'est... Alors, je dirais c'est plutôt des amours contingentes. Il y a la belle anglaise Jessie, il y a la bordelaise, il y en a tout un certain nombre, mais c'est pas vraiment... Disons qu'il y a quand même trois qui ont compté, Mina Planer, Mathilde Wezendonck et Cosima. À partir de là, vous savez, ça c'est comme dans la vie de tout artiste ou de toute personnalité, il y a l'essentiel et le contingent.
Oui, bien sûr. Et le contingent a été relativement nombreux, si je puis me risquer à ce jeu de mots, quand on parle de Wagner. Ce que nous allons voir maintenant, si vous le voulez bien, dans le cadre du récit, c'est justement l'histoire avec Mathilde Wezendonck. Ça commence au début comme une simple histoire d'amitié. Hein. On arrive à Zurich. Ce monsieur Wezendonck est
un industriel.
Hein. Il est négociant en soierie. Et il va...
Ce qui est très important pour Wagner, il ne faut jamais oublier qu'il avait une passion des tissus et des beaux tissus et que même quand il n'avait pas d'argent, il était prêt à dépenser l'argent qu'il avait ou qu'il n'avait pas en empruntant parce qu'il adorait siphonner la bourse de ses amis pour s'acheter des robes de chambre en soie, des babouches en soie. Enfin, il avait une passion pour ça. Donc la première relation avec Wezendonck, c'est peut-être le fait qu'il était négociant en soie.
Oui, mais entre esthètes, on se comprend. Et évidemment, M. Wezendonck a une épouse et c'est là que vont commencer les problèmes.
Le récit de Franck Ferrand.
Oui, Franck, et vous nous parlez aujourd'hui des amours de Wagner.
Tenir registre des amours de Wagner, écrivait Brion, ce serait faire œuvre vaine et peut-être sacrilège, avec l'absurde espoir de découvrir comment le génie aurait été conditionné par la passion. On risquerait, en poussant trop loin cette entreprise, de découvrir de fâcheux marchandages, des questions d'intérêt suspectement associées à l'authentique épanouissement de la passion. Qu'en termes élégants, ces choses-là sont dites. En vérité, le risque n'est pas bien grand si l'on se focalise entre Mina Planer, donc la première épouse de Wagner, et Cosima von Bülow, dont on dira un mot tout à l'heure, sur celle qui aura été l'objet de sa deuxième grande passion amoureuse, Mathilde Wezendonck, donc l'épouse de ce marchand de tissus, de cet industriel de Zurich, qui va faire construire à la demande de sa femme une villa, hein, une petite maison, dans le parc de sa propre villa, sur la colline verte de Zurich, et cette maison va s'appeler l'Asile. Les Wagner s'y installent en septembre 1857, bien sûr. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à une époque où à l'esprit complètement occupé par son Tristan, qui déjà depuis près de 3 ans hein, est en train de mûrir, est en train de devenir sa grande affaire. Or, l'amour qu'il va éprouver assez vite pour Mathilde Wezendonck, qui est un amour tout à fait partagé, va bien sûr nourrir cette œuvre et va sans doute lui donner la dimension qui est celle que nous connaissons. « Tu m'accompagnas jusqu'à la chaise devant le sofa, tu m'embrassas et me dis maintenant je n'ai plus rien à souhaiter. » Vous connaissez, c'est Paolo et Francesca. Il y a quelque chose de cet ordre, évidemment, dans l'incroyable alliance qu'on va voir surgir entre Wagner et cette Mathilde Wezendonck. Donc, une femme au noble cœur, jusqu'à ce jour hésitante et timide, se jeta bravement dans l'océan des souffrances et des maux pour me procurer ce moment sublime pour me dire « je t'aime », écrira-t-il. « Ainsi, tu te vois à la mort pour me donner la vie. Ainsi, je reçus la vie pour quitter le monde avec toi, pour souffrir avec toi, pour mourir avec toi. » Toute la thématique de Tristan et Isolde est là, comme si l'amour, comme si l'accomplissement de la passion ne pouvait se faire que dans une forme de sacrifice de la vie, Eros et Thanatos indissolublement liés, voilà bien le cœur même de l'œuvre que Wagner est en train de construire. Le problème, c'est qu'évidemment, pendant que Wagner, lui, à partir de cette romance qui est en train de naître, à partir de cette passion qui est en train de lui enflammer le cœur, pendant que Wagner s'élève dans les sphères de la création musicale et poétique, pendant ce temps, sur le plancher des vaches, si je puis dire, ses deux épouses, sa véritable épouse et puis sa maîtresse, commencent à se crêper le chignon. Ça va vraiment très mal entre Mina et Mathilde. Elles se battent froid dès septembre 57, c'est-à-dire dès l'installation des Wagner dans le fameux asile, aux marges de la propriété des Wezendonck. Et le 7 avril 1858, Mina intercepte, donc l'épouse de Wagner, intercepte une lettre qu'il avait écrite pour Mathilde. Elle lit cette lettre, cette déclaration incroyable, enflammée de son mari. Et bien entendu, elle fait une scène, une de ces scènes dont nous parlait Alain Duhaut à l'instant. Une scène d'autant plus terrible que pour Mina, c'est une découverte. Mina n'avait rien vu au départ de la passion qui était en train d'enflammer son mari.
C'est un parfait vaudeville, donc.
Ah, c'est, oh oui, on est dans un vaudeville qui va tourner au drame, néanmoins. Alors, dans un premier temps, on essaie de calmer le jeu. Mina est envoyée faire une cure aux eaux de Brestenberg. Pendant ce temps-là, les Wesel donc trouvent plus sage de partir faire un voyage en Italie et Wagner va rester tranquille, si je puis dire, pour écrire le duo de son second acte. Notamment, on est en juin, juillet. À ce moment-là, Mina revient de sa cure thermale et on dit que les domestiques de la maison, pour l'accueillir, ont fabriqué une sorte d'arc de triomphe en fleurs. Et alors ça, c'est très mal vécu par Madame Wesel donc, qui elle-même vient de rentrer de voyage. Richard m'a déclaré, écrit Mina, que la dame est furieuse et tout à fait hors de soi parce que je suis revenue. Dans sa jalousie, elle ne peut plus supporter que je reste dans leur maison. Elle voudrait que Richard seul dorénavant y demeura, mais c'est naturellement ce qu'il ne peut pas faire. Le pauvre Richard a deux cœurs. Ah, on peut dire que l'écriture de Tristan ne va pas se faire dans la facilité. Finalement, la situation devient tellement intenable que dès le 17 août de cette année 1858, les Wagner sont obligés de quitter l'asile. Mina s'en va à Dresde, chez elle, si je puis dire. Quant à Wagner, il va aller s'installer à Venise. Et c'est à Venise qu'il va achever son grand œuvre, cet opéra extraordinaire. Dès que je pourrai me remettre à mon Tristan, écrit-il au lendemain de son départ, je me tiendrai pour sauver, et c'est ce qui va avoir lieu parce que bien entendu il est tranquille à Venise et alors il bénéficie à Venise de l'idéal pour un amant très cérébral, très romantique comme pouvait l'être Wagner, c'est-à-dire qu'il a tout l'amour, toute la passion de Mathilde sans avoir les inconvénients du réel bien entendu, donc ça l'inspire évidemment et il rendra hommage à Mathilde Wesel donc que j'ai écrit Tristan, lui disait-il. C'est ce dont je vous remercie du plus profond de mon âme en toute éternité. Il y a dans ce Tristan Isolde de Wagner, évidemment, sans doute le plus beau chant d'amour de tous les temps. Enfin, c'est mon point de vue, mais c'est tout à fait extraordinaire. Mild und leise, wie er lächelt, doux et léger comme il peut sourire, commence le poème, comme ses yeux s'ouvrent au bonheur. Freunde, seht ihr nicht, ne voyez-vous pas ça, mes amis, oh que j'entende cette chanson qui, si merveilleuse et légère, cette douceur qui pleure, parole universelle, douce réconciliation, chant qui naît de lui, enfin, c'est difficile à traduire, hein, qui vient de l'intérieur de lui-même, pénètre en moi, vibre en moi et d'un doux son sonne tout alentour, autour de moi, plus clairement, chantant et m'enveloppant, sont-ce les ondes des douces voluptés, sont-ce les vagues des souffles heureux, comme elles se gonflent, comme elles m'enveloppent dans ces souffles doux, dois-je perdre moi-même mon souffle ? Sublime mort d'amour d'Isolde, interprétée ici par l'incroyable Jesse Norman, qui accompagne les cordes de soie du Philharmonique de Vienne sous la baguette de Herbert von Karajan, une baguette moins wagnérienne que straussienne, disiez-vous Alain Duhaut.
Sans doute, mais une baguette qui va creuser à l'intérieur de toutes les strates de la musique pour le détailler. Il y a quelque chose de lumineux à l'intérieur de cette orchestration que révèle Herbert von Karajan, c'est absolument magnifique.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et cet après-midi, au cœur de l'histoire, on parle de Richard Wagner avec vos invités, Franck, Alain Duhaut, écrivain, musicologue, animateur de télévision et de radio, directeur artistique également de Viva l'Opéra dans le cinéma UGC, et puis Thierry Geffretin, journaliste au service culture d'Europe 1.
Et malgré les publicités, nous sommes encore tout bouleversés par cette extraordinaire interprétation de Jesse Norman, de Isolde's Liebestod. C'est un poème qui a été écrit sur papier rose, disiez-vous.
Mais oui, c'est tout à fait amusant. Il veut manifester sans doute que le rose est une couleur qui a le rapport à l'amour. Et il écrit donc à Mathilde Wezendon qu'il a écrit ce poème sur papier rose, qu'il a été inspiré aussi par les hymnes à la nuit de Novalis, qui fait comprendre aussi ce rapport. Et puis, il y a une lettre qui est très amusante parce que ça montre aussi un peu la mauvaise foi de Richard Wagner. C'est, il dit, mon œuvre, il parle de Tristan, est tellement extraordinaire qu'il faudrait une mauvaise représentation pour qu'elle puisse être acceptée, sinon le public deviendrait fou.
Il n'était pas fâché avec lui-même.
Hein, pas vraiment.
Et il était très conscient que cette œuvre en particulier était son chef-d'œuvre.
Je ne sais pas s'il en était conscient, parce qu'il était en même temps, parallèlement, dans l'écriture du Ring, enfin de l'Anneau du Nibelung, qui est quand même sa grande œuvre. Mais il savait que là, il était allé le plus loin possible dans cette espèce d'exacerbation du romantisme et de ce rapport au temps. Car encore une fois, il a là réussi à étirer le temps. Quand on entend le prélude de Lohengrin quelques années avant, là on voit que tout s'est déployé et qu'on vit dans un autre rapport de l'homme au temps. C'est ce que voulait véritablement ériger Wagner.
Et dans un autre rapport du spectateur au temps, si
bien
je puis dire de manière prosaïque, parce
bien
que
sûr.
Ça dure très longtemps une représentation wagnérienne.
Oui,
ça peut durer en tout cas.
En tout cas, oui. Le Tristan Isolde, c'est 4 heures, 4 heures et un quart de musique.
Oui, c'est ça. Donc il faut...
Mais ça ne passe pas parce qu'on est justement on est en lévitation quand on entend Tristan.
Oui, on est baigné.
C'est-à-dire que Tristan, c'est vraiment un révélateur. Ou bien on entre dans Tristan, et dans ce cas-là, peu importe, ça peut durer l'éternité, ou bien, véritablement, on n'y entre pas et on retourne chez Verdi.
À ce moment-là, on sort au bout d'une demi-heure. On y viendra, nous, à Verdi, bientôt, puisque c'est également le bicentenaire de Verdi, qui est une personnalité qui a joué un rôle, politique et historique majeur.
Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est quand même les deux plus grands compositeurs d'opéra du 19e siècle,
mais...
et qu'ils ne se sont jamais rencontrés.
Incroyable. Nés la même année, ils ont passé leur temps à se croiser sans se voir, en quelque sorte. Thierry Geffretin, il y a un spectateur sur lequel cette musique wagnérienne va avoir un effet encore plus bouleversant que sur d'autres, c'est le roi de Bavière, le tout jeune roi, Louis II.
Oui. Un gamin qui est amoureux des arts, hein, qui est fasciné, peut-être amoureux, disons-le, de Richard Wagner. Et il va lui montrer à quel point il aime en ouvrant... grande sa bourse pour rembourser les dettes colossales, parce que Wagner aime le luxe, il aime les femmes et donc il dépense beaucoup d'argent qu'il n'a pas, comme disait tout à l'heure Alain Duhaut.
Et Wagner a eu le plus grand mal à faire accepter ses œuvres. On a vu toutes les difficultés, enfin on n'a pas vu toutes, mais on a entreaperçu les difficultés qu'il peut avoir avec un certain nombre d'institutions musicales, et d'un seul coup il a un très grand mécène qui en plus est un chef d'État qui l'accueille à bras ouverts et qui en fait son héros. C'est formidable.
Il fait plus que l'accueillir, il lui écrit une lettre à peine est-il monté sur le trône, lui disant qu'il serait très honoré s'il venait le visiter, et qu'il met toutes ses forces et ses finances à sa disposition. Et Wagner sera en usé, évidemment.
Oui, ça, évidemment, il va en faire.
Oui, il sent que c'est le bon. Oui, et cette fois, c'est le bon mécène.
Et en même temps, il va en faire bon usage. C'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que Wagner va notamment savoir transformer la faveur de Louis II en éternité pour lui. C'est Bayreuth.
C'est parce que vous êtes wagnérien que vous dites ça, Franck. Parce qu'à la cour, de Bavière, on ne dit pas ça du tout.
Non,
on est au contraire remonté contre Wagner.
On finira par réussir à faire... partir Wagner de Munich, parce que c'est vraiment la cour, comme dit Thierry Geffrotin, justement, qui va pousser pour qu'il aille s'installer à côté de Lucien à Trebschen. Oui. Parce que véritablement, il siffonne les caisses, non seulement personnelles, mais les caisses du royaume.
Oui, parce que...
Parce que vous savez, le Bayreuth, ça a coûté très 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 cher. Et encore, ça aurait pu coûter plus cher.
Qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire dans ce cas de Bayreuth?
Bayreuth, d'abord, vous savez que ça aurait pu coûter plus cher, parce que le projet de Wagner, le projet de Gottfried Semper, qui avait été un projet pour l'Opéra de Munich qui n'avait pas été réalisé parce que ça coûtait trop cher, il a voulu le reprendre, développer à Bayreuth. Et finalement, même si le roi a donné 100 000 thalers, ce qui était considérable, ça a permis de construire un théâtre provisoire, car ce théâtre est provisoire. Et d'ailleurs, c'est un peu la déception qu'on a quand on arrive la première fois à Bayreuth. On dit quoi, ce petit théâtre en briques, c'est ça le temple. Mais c'est un théâtre provisoire, mais c'est un théâtre génial, car effectivement, il a une conception tout à fait étonnante. C'est le théâtre grec, c'est-à-dire un théâtre en amphithéâtre. La pente est suffisamment grande pour qu'on ne soit jamais gêné dans la vision. Mais c'est aussi un théâtre spartiate d'une certaine manière, puisque on est assis sur des sièges en bois, sans accoudoir. Et c'est vrai que quand on entend Tristan, le crépuscule des dieux,
il faut
vraiment aimer
oui.
ça. Quoi. Et mais il y a surtout une chose extraordinaire, c'est ce fameux orchestre invisible. Car Wagner a une conception de l'acoustique tout à fait unique. Il imagine de faire recouvrir l'orchestre, la fosse d'orchestre, de planches de bois, ce qui fait qu'on ne voit jamais les musiciens, mais que le son se projette vers le fond, et avec le fond qui est en bois, revient vers les spectateurs, mêlés dans un fondu acoustique tout à fait extraordinaire aux voix des chanteurs.
Et l'histoire dit que c'est en arrivant à une représentation d'un opéra ou d'un concert en retard où il était derrière un grand rideau qu'il a entendu ce son ouaté et que voilà, il s'est dit c'est ça le son qu'il me faut. Donc c'est à la fois une réflexion d'architecte et aussi
les hasards de la vie.
Et ça montre en même temps qu'il pense pas seulement comme un compositeur d'opéra traditionnel, seulement des voix et des airs, mais qu'il pense une totalité dans laquelle l'orchestre et les voix sont liés, fondus pour provoquer une sorte de symphonie avec voix.
Non seulement le roi Louis II de Bavière va fournir les fonds, si je puis dire, il est le mécène de l'opération, mais il va également moralement soutenir Wagner, c'est-à-dire qu'il lui donne enfin l'oreille qu'il attendait quelque part. Quelle est la relation entre ces deux hommes? Je pense qu'il y a de l'amour du côté du roi. Oui. Et du côté du compositeur, comment regarde-t-il ce jeune roi?
Je crois qu'il faut être tout à fait conscient du fait que Wagner utilise, manipule le roi Louis II. Je pense effectivement qu'il y avait réellement un amour homosexuel de Louis II vers Wagner, et que Wagner, malheureusement, utilisait le roi comme une vache à lait, un peu comme Tchaïkovski avec sa bienfaitrice. Vous savez, on peut être un génie...
Compositeur entretenu, si je puis dire.
On peut être un génie, un personnage pas très... Vous savez, celui qui va piquer la femme des autres, piquer l'argent de ses amis, c'est Wagner. Et en même temps, ça produit une œuvre géniale.
Il vit avec Cosima à l'époque.
Alors, il vit avec Cosima, qui est quand même aussi non seulement la fille de Franz Liszt, de son ami Franz Liszt, mais surtout la femme de Hans von Bülow. Hans von Bülow, c'est un pianiste et chef d'orchestre qui s'est dévoué corps et âme pour Wagner, pour faire jouer ses œuvres un peu partout en Europe, et les a dirigées, et pour le remercier, il lui pique sa femme et il part avec. Donc voilà, ça c'est aussi Wagner.
Alors, le théâtre de Bayreuth va servir évidemment d'écrin à la plus grande œuvre, enfin, si tant est qu'on puisse parler d'une œuvre, à la tétralogie de Wagner,
c'est
le Ring.
Non, Franck Ferrand, vous avez raison, c'est une œuvre. Oui. Car on dit, évidemment, il y a l'Ordre du Rhin, la Valkyrie, Siegfried et le Crépuscule des Dieux, mais ce n'est qu'une seule œuvre de 16 heures, qui évidemment ne se déploie pas dans la continuité, mais qui est conçue pour être pensée. Conçu et pensé pour n'être qu'une seule œuvre.
Et d'ailleurs, à la création, c'est donné, il y a un jour où on se repose, mais c'est 13, 14, 16 et 17 août 1876. On est dans l'œuvre, on est plongé dans l'œuvre.
On entre dans un univers.
C'est une semaine totale consacrée au Ring.
Mais c'est ça qui est formidable. Quand on va à Bayreuth, vous savez, pour écouter le Ring, on arrive, on s'installe. En principe, on peut s'installer à l'hôtel, mais si on est vraiment wagnérien, on s'installe chez l'habitant. Le matin, on va à la Wahnfried, la maison de Wagner, parce que quand il a demandé l'argent pour construire le théâtre, il a demandé aussi un peu d'argent pour se faire construire
une très belle maison.
Aujourd'hui, on dirait que c'est de l'abus de biens sociaux, mais à l'époque, c'était normal.
C'est toujours la famille Wagner, d'ailleurs. d'ailleurs.
Toujours. Donc on va le matin à la Van Fried pour regarder les maquettes, écouter des extraits des enregistrements anciens. Ensuite on s'habille et on va très tôt, puisque les représentations commencent dans l'après-midi. Et on arrive une heure avant, on monte la colline sacrée, on arrive une heure avant.
Tout un
on
rituel.
On rencontre ses amis, on boit. Et puis on attend 15 minutes, 10 minutes et 5 minutes avant l'entrée que les musiciens, la fanfare, c'est-à-dire la partie des cuivres, viennent jouer les thèmes principaux de l'œuvre. Et ensuite les Blaumädchen, c'est-à-dire les filles en bleu, les ouvreuses, vous font entrer sur vos petits sièges en bois. Puis ensuite on referme, il fait tout noir et ça commence.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, Franck Ferrand.
La chevauchée des Valkyries par l'orchestre de Paris sous la baguette de Daniel Barenboim. J'en profite puisqu'on cite Daniel Barenboim pour évoquer, parce qu'évidemment nos auditeurs ne se font pas faute de nous le rappeler, la dimension antisémite du personnage. On ne peut pas parler de Wagner sans évoquer ça, bien entendu.
Bien sûr, parce qu'il a écrit ce pamphlet du judaïsme dans la musique, mais il faut quand même relativiser la chose au 19e siècle.
Il n'avait pas aimé Meyerbeer et compagnie, hein, qui lui avait fermé les portes.
Et Mendelssohn, surtout.
Oui.
Mais le problème, c'est qu'au 19e siècle, il y a un antisémitisme latent partout. Si vous prenez George Sand, qui serait considérée aujourd'hui comme une femme de gauche, elle écrit dans ses lettres des phrases terriblement antisémites. Chopin aussi est antisémite. Donc l'antisémitisme est malheureusement quelque chose qui est
à l'époque, c'est
au
un
fond
fait, oui.
Et dans le substrat culturel commun. Alors même si, comme partout, Wagner a poussé le bouchon un peu loin, on relativise cela en pensant qu'on entend cet antisémitisme après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire après le nazisme qui, évidemment, l'a exacerbé.
Il doit quand même pas être très fier de lui, parce que quand il publie cet opuscule, il ne signe pas de Wagner. Hein. Il prend un pseudonyme. Donc il est sans doute conscient, quand même, que ce qu'il écrit...
Qui pousse le bouchon un peu loin.
Un peu loin, oui.
Comment est-ce qu'on pourrait définir aujourd'hui l'œuvre de Wagner? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Est-ce que c'est spécifiquement moderniste ou au contraire passéiste?
Passéiste, assurément pas. Moderniste au sens qu'il le définissait lui-même. Il voulait créer la musique de l'avenir. Et cette musique de l'avenir a été effectivement considérable au 19e siècle. Mais comme toute nouveauté, elle se périme. Puisque après la musique de l'avenir wagnérienne, il y a eu l'école de Vienne avec Berg, Schoenberg et Webern qui ont poussé un nouvel avenir, etc. C'est même ce qui fait le renouvellement permanent de l'histoire de l'art. Heureusement que ça ne s'arrête pas. Mais c'est une œuvre, pour moi, qui est basée sur un changement, véritablement, on le disait tout à l'heure, de ce rapport au temps. C'est ce qui fait d'ailleurs cette durée particulièrement développée des opéras de Wagner, mais aussi cette manière très particulière de dilater à la fois les orchestrations, de dilater les airs et de dilater en permanence cette espèce de rapport des psychologies pour en faire quelque chose qui, au fond, n'est plus réaliste. Il y a un opéra réaliste chez Wagner, c'est Les Maîtres Chanteurs.
Oui.
Mais mis à part cet opéra réaliste, les autres ne sont pas réalistes. Et c'est ce qu'il apporte de nouveau au 19e siècle.
Le dernier opéra est peut-être le plus éthéré, c'est Parsifal.
Parsifal, oui. Parsifal, c'est presque plus un opéra. D'ailleurs, il le
cite
Bühnenfestspiel, c'est une action scénique sacrée, c'est une espèce de messe wagnérienne. D'ailleurs, il a expressément demandé...
Une messe païenne, en quelque sorte.
Mais il a expressément demandé, comme à la messe, qu'on n'applaudisse pas à la fin du premier acte. Et si vous êtes à Bayreuth et que vous avisez d'applaudir, je vous assure qu'on vous fait très mal voir.
Incendié.
Il l'avait d'ailleurs réservé initialement, essentiellement pour Bayreuth, au moins pour 30 ans, et ensuite ça a été donné.
Et les Américains, d'ailleurs...
Oui, il y avait tout de suite...
Le maître, les Américains osent tout. Vous savez qu'à Bayreuth, après près, alors que les forces d'occupation américaines sont en Bavière, on donne des comédies musicales au Festspielhaus. Vous vous rendez compte? On parlait de ne pas applaudir à la fin du premier acte de Parsifal.
Là, on est
on
dans
entend la... peut-être Carousel de...
On est carrément dans un sacrilège volontaire.
Roger Zermerstein.
Wagner va mourir le 13 février 1883 au cours d'un séjour à Venise. D'ailleurs, quand on est à Venise, hein, quand on se promène sur le Grand Canal, on indique toujours le palais où est mort.
Qui est devenu un casino maintenant.
Qui est devenu aujourd'hui.
Le palais Van Dramin Kalergi. Ça se visite d'ailleurs, l'appartement où il vivait se visite. Il est très bien conservé. Et si vous demandez, eh bien, on vous fait visiter ces trois pièces. Il y a le masque funèbre. Il y a beaucoup de documents qui sont là. C'est très émouvant. Mais il n'a pas vécu que là. C'est sa dernière résidence. Il a beaucoup vécu au Palais Brandolini et surtout dans ses hôtels de luxe qu'il affectionnait, et en particulier Danieli.
Danieli, bien sûr, hein, où étaient toutes les personnalités de l'époque, et pas seulement Wagner, bien entendu. Il n'est pas enterré du tout à Venise, bien sûr. C'est à Bayreuth qu'il est enterré.
C'est magnifique parce qu'il meurt donc en 83. Son majordome fait mettre le corps dans un cercueil provisoire. La gondole l'amène jusqu'à la gare de Santa Lucia, une nuit pour revenir à Bayreuth, et il est enterré dans le fond de la Wanfried à Bayreuth, où viendra le rejoindre quelques décennies plus tard Cosima.
Oui, parce qu'elle mourra, elle, très, très âgée.
92 ans.
92 ans. Vous avez, à l'automne dernier, fait une sorte de pèlerinage, vous Thierry, un voyage sur les traces de Wagner?
Oui, c'était passionnant parce que moi qui vénère Bach, on parle de Wagner, mais je suis un fervent admirateur de Bach, je me suis rendu compte que j'étais autant dans les pas de Bach que dans les pas de Wagner. Je m'explique, nous sommes allés à Leipzig, évidemment, où il naît, et Bach a passé 27 ans de sa vie. Nous sommes allés à Dresde, là où dans sa jeunesse il est, alors il y a quand même des souvenirs de Bach. Ensuite, on s'est promené autour et alentour, mais pas... En fait, le seul endroit où on se dit Wagner est chez lui, c'est Bayreuth. Mais
ça, hein.
Parce que quand on a la chance d'y aller, alors je ne vous parle même pas du festival, parce que ça, Alain, qui a eu la chance d'y aller, peut vous dire que ça prend parfois 10 ans pour avoir un billet. Mais quand on a la chance d'y aller, de visiter hors festival, on sent quand même qu'on est chez Monsieur Wagner.
Il y a d'ailleurs une liste d'attente qui est aujourd'hui de 11 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, en 2013, vous pouvez réserver des places pour 2024.
Alors, il faut quand même dire une chose, hein, parce que ça paraît incroyable. On se dit, mais comment ça se passe? Il y a un tirage au sort. Finalement, non, c'est que chaque année, on épingle votre lettre dans le dossier. Et au bout d'un certain nombre d'années,
vous avez
le
droit, il y a une liste d'attente.
Il y a 10 lettres de Monsieur Duhaut. On va dire d'accord.
Je pense que Monsieur Duhaut n'a pas ce genre de problème entre nous. Compositeur majeur de l'histoire de l'opéra, Richard Wagner est aussi celui qui aura déchaîné les plus extrêmes passions, suscitant aujourd'hui encore louanges immodérées et absolue détestation, écrivez-vous Alain Duhaut dans votre dictionnaire amoureux de l'opéra. C'est vrai que le personnage est tout sauf consensuel.
Exactement, mais c'est au fond ce qui fait qu'il est excitant. Vous savez, les gens qui sont trop consensuels sont souvent ennuyeux.
Merci beaucoup à tous les deux, et je rappelle aussi Thierry, vos 100 mots de la musique classique édité, c'est un petit que sais-je passionnant. Merci de nous avoir fait rêver, pas seulement aux Valkyries.